Bonjour, c'est Nathalie Delouis. Est-ce que vous aussi, vous rêvez parfois d'enfiler des chaussons de danse classique ou d'imiter votre clip préféré sans vous sentir ridicule? Une amie me disait récemment qu'un jour sans danser, c'était un jour triste. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment dans ma journée où j'esquisse un petit pas de danse. Alors imaginez mon enthousiasme quand j'ai découvert toute la joie que peut apporter un cours entier de danse. Et encore plus quand c'est chez Dancefloor Paris, le nouveau lieu parisien dédié à la danse où on se fait chouchouter. Vous trouverez chez Dancefloor Paris des cours feel good pour tous les niveaux et dans tous les styles, du classique au cabaret, en passant par l'afro, enseignés par les meilleurs professeurs d'Europe. Pour commencer, je vous recommande le cours signature Popstar Dance avec les chorégraphies iconiques de Britney, Beyoncé ou Justin. Et le point qui a achevé de me conquérir, il y a même un sauna pour se détendre après les cours. Rendez-vous sur le site dancefloor-paris.com pour découvrir tous les cours et réserver le vôtre.
Louis. Je repense souvent à cette phrase qu'Hugo Lindenberg m'avait dite en interview à l'occasion de la sortie de son premier roman, Un jour ce sera vide. Il n'y a qu'un pas entre être un enfant seul et être un aliéné. L'enfance est toujours déjà un monde de solitude, me disait-il, parce qu'un enfant est seul dans son apprentissage du monde, dans la construction de soi, de son individualité. Mais imaginez que cette solitude soit encore accrue par un désert affectif, par l'impossibilité de demander de l'aide à un adulte bienveillant, par le refus du monde qui vous entoure de vous laisser accéder à l'information, à la bienveillance, à votre propre jugement, votre libre arbitre. Imaginez grandir dans un monde d'emprise et de violence, sans accès à l'extérieur, pour ne serait-ce qu'espérer un sauvetage. L'épisode d'aujourd'hui parle d'enfance, de pouvoir et de domination. C'est un épisode de Constance Villanova. Je suis Charlotte Pudlowski.
Je suis Maureen Wilson.
Bienvenue dans Passage.
Fond de nous, je pense que l'origine, c'est comme un nénuphar, il va à travers la boue et tout ce qui est sale, il va quand même ressurgir. Donc il doit passer par des milliers de choses vraiment extrêmement difficiles, mais il y a quand même quelque chose dans mon inconscient qui me disait de m'échapper et de sortir de là. Voilà, de moi-même, je me suis extraite de tout ça et j'ai réussi à sortir de là. Je nais en 77, le 6 septembre. J'habite à Bruxelles, notamment à Tervuren, où nous avons une jolie maison avec un jardin. J'habite avec mes deux parents et mon frère, qui a 3 ans de moins que moi. Je vais à l'école Sacré-Cœur, l'école catholique, et j'ai une éducation tout à fait classique, famille normale, tranquille, en fait. Ma mère commence à travailler dans un magasin biologique, végétarien, où il y a des séances de yoga, etc. Et puis, petit à petit, je vais avec mes parents le dimanche après-midi dans une grande pièce dans une maison, avenue de la Sapinière, maison assez chic dans un milieu très coté, où là, on attend des séminaires, enfin ce qu'on appelle des enseignements de Monsieur Spatz. Et donc, on se trouve là, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a toutes sortes de camionnettes, de voitures, tout le monde se met le long de la rue. Et on arrive là, on fait une sorte de gymnastique, on appelle ça des prosternations. 3 prosternations, il y a des décors tibétains, on s'assied à même le sol. Il y a là un siège surélevé, très luxueux, il y a des tapis, etc. Lorsque M. Spatz arrive, tout le monde s'agenouille devant lui, il fait 3 prosternations, il se met sur ce siège haut placé. Et tout le monde est en silence, il doit juste bien me tenir et pas faire de bruit. Mais il y a beaucoup de monde et tout le monde va vers cette personne-là. Je ne comprends pas toutes les paroles qu'ils disent parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, beaucoup de philosophie. Par contre, il y a un moment donné, il dit « J'ai un don qui m'a été transmis par la lignée. Je sais voir qui ment, qui dit la vérité et je sais voir à travers ce que vous avez dans vos têtes, je sais lire vos pensées. Et donc ça, c'est un don qui m'a été donné. J'ai 7 ans. À ce moment-là, je stresse parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il peut lire dans ma tête. Et du coup, j'ai quand même une sorte de pression en me disant, ok, ça c'est quelqu'un qui sait des choses.
Je nais le 29 octobre 1980 à Bruxelles, sur une table accouchée par le médecin de la communauté. C'était comme ça que la majorité des naissances se passaient dans l'AOKC. Dans l'AOKC, tous les enfants, à leur naissance, dans les semaines qui suivent, vont recevoir un nom tibétain. Je m'appelais Ricardo, et donc c'était un nom qui était rajouté en plus des noms qui étaient donnés par les parents. Et donc mon nom, à cette époque-là, je m'appelais Kungiel, le tout vainqueur. En traduction, ça va être le nom que je vais porter pendant quasiment 14 ans, de ma naissance jusqu'à mes 14 ans.
Petit à petit, je rencontre beaucoup plus de monde, donc pas juste ma famille, mes grands-parents et mes amis, mais on rencontre beaucoup de monde. Il y a des personnes parfois qui viennent à la maison. Tout ça reste pour moi encore normal. Et puis, ma mère commence à mettre de l'encens parfois, donc je me demande qu'est-ce que c'est, parce que ça sent fort, etc. Et elle me dit que c'est pour purifier les chambres. Et puis, je ne sais pas encore ce que c'est. Je trouve ça assez amusant, en fait, au départ. C'est un peu folklorique, c'est tout à fait nouveau. Je veux moi-même l'essayer. Et puis après, je vois au-dessus des étagères des gros livres, un genre de blocs. On me dit que c'est des livres de prière, mais tout reste assez vague. En fait, c'est quelque chose qui appartient à mes parents. Il se passe quelque chose, mais rien ne vient encore me troubler, rien ne crée un séisme dans ma vie privée et sécurisée à ce moment-là. Mon père, après un entretien avec Spatz, décide de partir en Inde. Spatz lui conseille d'aller voir un peu ailleurs, d'oublier son ego, et moi, je reste avec ma mère. Tout va très vite quelque part. Mon père, ce que moi j'ai comme info, mon père part pour un voyage et en Inde, il y a beaucoup d'excitation, il y a des disputes, il y a beaucoup de changements. Et à ce moment-là, donc, mon père prend soin de moi, mais je sens déjà que ça se décroche. On déménage vers la rue de Livourne, on avait une maison tout à fait normale avec jardin, on se retrouve dans un 2 pièces, sur la rue, très peu de place. Et en une fois, mon père s'en va, nous on s'installe là, et en fait, ce n'est plus le séisme, c'est vraiment l'explosion de ma bulle. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Ma mère commence à travailler beaucoup. Elle n'est plus beaucoup présente. Et en fait, les gens de la communauté, disons la communauté même, prend la place de ma famille. Je sais qu'elle va travailler. J'entends marché matinal. Et donc, je dois me lever toute seule. Il y a un réveil qui est mis le soir à côté de mon lit. Et je dois l'éteindre. C'est vrai que... Et alors même ces affaires, moi qui suis attachée à ces foulards, ces tissus, on est dans les années fin septembre, début 80, c'était à ma mère, c'était à moi, c'était son amour à travers tout ça. Et donc je vois ma mère commencer à distribuer, à offrir ses affaires ici et là, des choses, des repères qui étaient pour moi importants commencent à disparaître au fur et à mesure. Je ne mange plus avec ma mère, je mange dans des réfectoires. Parfois, il s'y passe des choses étranges. Il y a des personnes avec des grosses barbes, il y a des gens qui ne me semblent pas vraiment fous, mais qui semblent perturbés. Parfois, je me pose même la question, je vois tous ces adultes autour de moi avec des difficultés, et je me dis, mais est-ce qu'ils savent que je suis là? Est-ce qu'ils pensent que je ne les entende pas ou que je ne les vois pas? Pourquoi ils se permettent toutes ces choses? En 85, plus ou moins en janvier, ma mère et moi, on se déplace pour le Château de Soleil en France. Un très beau monastère dans les gorges du Verdon, sur un plateau dans les montagnes. C'est un endroit fabuleux. Il y a un grand séminaire organisé par Spatz à l'occasion de la nouvelle année tibétaine qu'on appelle le Losar. Et toutes les personnes de la communauté belge et portugaise et française se réunissent là. C'est un endroit fabuleux. C'est vraiment juste magnifique. Je vois encore grimper la côte en voiture, il y a des bannières de toutes les couleurs, il y a des montagnes aux 4 directions. Je suis avec ma mère, on nous donne une petite chambre où on loge avec d'autres personnes. Et l'éducatrice en charge des enfants à ce moment-là vient vers nous, elle nous accueille. C'est vraiment un monde disons, à côté de ce que je vivais à Bruxelles, ça semblait comme un Walt Disney à ce moment-là.
Robert Spatz va nous envoyer à Château de Soleil, ma mère, moi et mon père. Ma mère, à ce moment-là, est encore mineure, ou en tout cas, elle vient peut-être d'avoir 18 ans. Ma mère se plie à cette injonction et elle va rester à Château de Soleil avec moi jusqu'à mes 5 ans. Moi, la seule chose que je me rappelle du départ de ma mère, j'ai pas vraiment la mémoire de la voiture qui part. Je me rappelle juste que, du jour au lendemain, je me retrouve avec Hyde, la responsable de tous les enfants à ce moment-là. Tout d'un coup, je suis avec Hyde et l'image est très claire. Et je suis devant la petite salle à manger, et on va rentrer là-dedans, et pour me consoler, elle va me donner une petite barre de fruits. Et voilà, je me rappelle du grand tilleul, un petit peu de la lumière, comme ça. Voilà, il y a quelques sanglots, etc. Quand j'intègre le groupe des enfants, la chambre, à ce moment-là, elle est au deuxième étage du château.
Lorsque j'arrive à Château de Soleil, il y a déjà beaucoup d'enfants sur place. Il doit y avoir une cinquantaine d'enfants. Et alors, les enfants viennent vers moi, notamment cette éducatrice. Ils viennent vers moi en disant « Oh, est-ce que tu veux rester avec nous? Tu vas rester, etc., comme nous ?» Et bon, je dis « Je ne sais pas. Évidemment, je suis tentée. C'est un monde d'enfants. Tout est beau. J'essaie un peu de faire la brave. » J'ai dit « Mais oui, moi, je veux rester ici, etc. » S'ensuit plus tard, donc après une semaine ou deux, je vais vers ma mère et je dis que moi aussi je veux rester avec les enfants et qu'il y a cette éducatrice qui m'en a parlé, etc. Et donc je dis que moi je veux rester là. Et puis, à la fin de ce séminaire, tout le monde doit rejoindre Spat sur une aire sacrée dehors. Il y a encore, c'est au petit matin, il gèle très très fort, mais on doit être pieds nus sur cette aire, sur cette herbe gelée. Spat est de nouveau sur une sorte de chaise haute, déjà habillé pour partir, et tout le monde doit se prosterner une dernière fois devant lui, le saluer, etc. Et c'est mon tour de passer, et donc je vais me prosterner devant Spat, et qui me dit « Maintenant, ma petite fille, tu as décidé de rester, c'est très bien, mais il faut être à la hauteur. » Et donc, je suis très, très fière, j'ai une sorte de sentiment un peu d'une mission très haute pour moi. Et donc, je me sens à ce moment-là plein d'élan, de motivation, mais en même temps, j'ai une sorte de crainte. On est au dernier jour des séminaires. Spat, après cette entrevue avec Spat sur l'air gelé, l'après-midi, je suis avec ma mère. Et puis, les voitures se préparent à partir. Et donc, je suis avec ma mère, je ne me pose pas de questions. Il y a tout ce mouvement. J'ai déjà un peu oublié ma mission. J'ai 7 ans. Et ma mère m'embrasse. Et puis, elle monte dans une voiture. Les portières claquent. Et puis, la voiture s'en va. Je me demande, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas dans la voiture? Où est-ce qu'elle va, ma mère? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, en fait. Ma mère est partie en voiture et moi, je suis là toute seule. Dans un nouvel endroit, avec du monde que je ne connais pas encore très bien. Il fait un peu gris et je suis sur ce chemin toute seule. Et je me demande pourquoi est-ce que ma mère m'a laissée là et pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas prise avec. À ce moment-là, il y a vraiment un grand vide. Il n'y a plus rien autour. Je vais m'asseoir sur une pierre. Je me rappelle encore, je suis sous un fil à linge, assis sur une pierre et je pleure tout le temps. Les enfants essaient de venir vers moi. Et puis, l'éducatrice arrive vers moi, elle me dit « Écoute, maintenant, ça fait déjà 3 jours que tu pleures, ça suffit, c'est comme ça. Maintenant, il faut arrêter de pleurer, tu sèches tes larmes et tu retournes dans le groupe des enfants et tu regardes vers l'avant maintenant. » Moi, je suis dans le groupe des plus grands et Ricardo et mon frère se retrouvent dans le même groupe des garçons. Il y avait toute la bande des garçons, Ricardo, mon frère et encore... C'est une équipe de garçons aussi très drôle, quoi. Moi, Ricardo, je m'en rappelle bien, c'était un peu le têtu et le colérique, mais aussi déjà très amical avec les filles.
Sophie, ça reste quelqu'un qui est plus âgé, qui est dans un autre groupe, et en plus c'est une fille. Et donc je suis pote avec son frère, qui a le même âge que moi en 1980. Sophie arrive, elle est déjà un petit peu plus âgée que des enfants qui sont nés sur place, qui n'ont jamais connu la ville, qui n'ont jamais connu le monde qui nous entoure.
Là-bas, on garde pas ses affaires personnelles. Nos habits sont mis dans les armoires avec tout le monde, dans des sortes d'armoires, des culox qui sont faits par tranches d'âge, filles et garçons, et tout est mélangé. Donc il n'y a plus assez à moi, etc.
C'est surtout vers 6-7 ans que le temple devient obligatoire, fait vraiment partie de la vie quotidienne. Il y a un autel. Sur cet autel, il y a des offrandes de riz, une offrande de lumière, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a toute une série d'objets, de peintures, de photos. En arrivant, on fait 3 prosternations. Ensuite, chaque enfant s'assoit directement autour de son responsable. Ça dure en général 2 heures. Il faut réciter des mantras, il faut réciter les prières, il faut pas s'endormir, il faut garder le dos droit. Il y a quelqu'un qui va te mettre les doigts ou le bic dans le dos pour te redresser. Après le temple, on a d'abord le petit déjeuner. Suite à ça, c'est l'école. On a accès au CNED, donc le cours national d'enseignement à distance français, avec toutes les matières classiques qu'on peut retrouver via le CNED, histoire, géographie, maths, etc. À ce moment-là, Robert Spatz, c'est quelqu'un de confiance, c'est une sorte de père à nous tous, c'est quelqu'un qui, quand on le voit, il est toujours très gentil avec tous les enfants, il nous parle toujours très gentiment, il est toujours très lointain aussi, et en même temps proche, de par la présence de toutes ces photos dans la cuisine, dans la chambre, dans le temple, dans... voilà. Partout, Robert Spatz est présent. On est tous persuadés, on a tous été éduqués, on croit tous au fait que Robert Spatz sait lire dans nos pensées, qu'il est constamment avec nous, qu'il est constamment proche de nous, qu'il est comme s'il flottait un petit peu juste au-dessus de notre tête, quoi.
Chaque manquement entraîne une punition. Les responsables, à un moment donné, de Château de Soleil, inventent une nouvelle punition. Et celle-ci, c'est de courir dans le gel, dans l'herbe gelée. Alors, à savoir qu'il fait très très froid en hiver et ces punitions sont vraiment sont très très difficiles. Je cours entre une demi-heure, une heure, parfois 2 heures dans le gel craquant. J'ai des cloques aux pieds tellement le gel me brûle les pieds. Et donc, ça fait vraiment très mal. Moi, je... Il y a vraiment un sentiment d'injustice. Et ça, c'est le sentiment qui nous a rendus en même temps très solidaires. C'est parce qu'on sait qu'on est puni pour un oui, pour un non, pour rien du tout. C'est un sentiment d'injustice, mais on ne peut vraiment rien y faire. On ne peut rien décider, on ne peut pas même pas décider de quel vêtement on va porter. On ne peut pas décider si on est puni injustement ou s'il y a quelque chose auquel on veut se justifier. C'est punissable aussi. J'attrape un jour mon frère derrière un arbre. L'éducateur avait un bâton levé au-dessus de sa tête. S'apprêtait à le frapper. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, certains enfants me préviennent, et donc j'accours, et donc je crie sur cet éducateur. Mais c'est courant, en fait. Beaucoup de choses se passent dans le groupe des enfants. Tout le monde, tous les adultes savent ce qui se passe, mais personne ne fait rien.
Je dois avoir 9-10 ans, et donc il nous réveille en plein milieu de la nuit. On ne peut pas s'habiller, on doit rester en culotte. Il nous amène dans ce qu'on appelait le Cloud Swing, qui était une sorte de prairie, peut-être 1 ou 2 kilomètres du château. Et donc il nous amène là, et il nous fait faire des prosternations sur l'herbe gelée, quoi. Donc en fait, ce jour-là, il a pas... Allez, c'est pas qu'il y a 20 centimètres de neige, le sol est blanc, l'herbe est recouverte de givre, à par endroit de la neige très dure ou de la glace très dure. Et donc, il nous met là, et il reste debout et il nous ordonne de faire des prosternations. Donc, c'est-à-dire qu'on doit se coucher sur le sol, mettre nos mains au-dessus de la tête. Forcément, le corps humain étant ce qu'il est, ben, au bout d'un moment, le givre, la glace, la rosée, tout ça fond un petit peu. Et donc, comme le sol est moins froid à cet endroit-là, puisqu'on l'a réchauffé, ben, il nous fait changer de place pour qu'on soit de nouveau confronté à sur une zone bien bien froide, bien bien gelée. Et donc on a la peau du corps toute rouge parce que on est en train de se frotter par terre contre du gel, quoi. Et puis je me rappelle des premiers rayons de soleil qui arrivent par-dessus les arbres et qui touchent ta peau, qui touchent ton corps et qui, malgré la situation, en fait, forment un bon souvenir, dans le sens où voilà, t'as le soleil qui touche ton corps bleui ou rougi par le froid et ça te réchauffe et tu te sens vivant et ça fait un bien fou, quoi. Ah, moi je suis docile, je suis totalement docile, j'arrive même pas à formuler une pensée qui me permet de remettre en question la punition. Je sens qu'elle est injuste, je suis en colère, je suis révolté contre ça, mais c'est tout ça se passe dans le domaine du silence et du secret. Il y a constamment cette espèce d'interprétation que si tu souffres, c'est que tu as accumulé du mauvais karma dans une vie passée, ou le jour avant, ou le mois d'avant. Et que donc, si tu souffres, c'est forcément parce que tu es en train de brûler ce mauvais karma. Et donc tu dois l'accepter.
Moi, je suis à la lettre ce qu'il faut faire. Je crois que je vais être un guerrier, j'en suis déjà, je dois être droit dans mes bottes. Alors ma mère, je la vois pas pendant la première année, mais lorsqu'elle revient, je suis déjà bien ancrée dans le moule. Et je trouve déjà que ma mère, elle est pas assez conforme aux habitudes, aux manières bouddhistes. Et ma mère réagit parfois mal, parce que moi, je lui impose de se tenir droite comme moi, puisqu'il faut être parfait, etc. J'ai, je pense, 8 ou 9 ans. Je me rends à Nice pour aller chez le dentiste. Ça a été permis pendant une période. C'est tellement luxueux que je me prosterne. Je commence ma première prosternation. Je me rappelle, c'est un tapis rouge, très moelleux, bordeaux. Il y avait des lustres, c'était vraiment magnifique. Et moi, j'étais vraiment habillée vulgairement avec un vieux training. Et je m'apprête à me prosterner. Je commence à vraiment avoir une vie de l'intérieur et de l'extérieur. Le luxe apparente à Spatz. Et moi, je suis devenue une personne qui n'a plus de personnalité, qui ne se gère plus toute seule, qui voit le monde d'une façon complètement différente. Et je ne m'appartiens plus, en fait.
Vers 91, j'ai 11 ans. Et je me rappelle qu'il y a un certain vent de liberté qui souffle à Château de Soleil dans la chambre des garçons. Chacun va établir « Ah, moi je trouve que la fille la plus jolie c'est celle-ci, l'autre c'est celle-là ». Et donc en fait chacun va un petit peu se choisir un peu une fille. Et moi en fait je prends tout ça très très au sérieux. C'est-à-dire que la fille que je trouve qui est la plus belle, cette fille elle s'appelle Petty. J'ai des sentiments pour elle. Pour moi, c'est très nouveau. Elle a 1 an de plus que moi, 1 ou 2 ans de plus que moi. C'est déjà une adolescente, quoi. C'est vraiment une adolescente développée avec des formes très généreuses. Et donc, moi, je suis absolument très intéressé. Je sais pas pourquoi, il y a mon radar qui fait... On va commencer à se promener dans Château de Soleil en se tenant main dans la main. Les gens vont nous voir nous rouler des bisous, puis nous rouler des pelles. Moi, je me rappelle du désert affectif de Château de Soleil, dans le sens où, quand je me fais punir, quand un autre enfant se fait punir, il n'y a pas quelqu'un chez qui aller se consoler, il n'y a pas quelqu'un qui te prend dans tes bras si t'as un gros chagrin. Et donc, quand je reçois cette affection de sa part, je ressens à quel point j'en ai besoin, à quel point ça me fait du bien, et à quel point ça me donne confiance en moi. Je suis un jeune adolescent qui se construit à ce moment-là. Et donc, cette situation, elle me rend plus important.
Spatz annonce qu'il a un nouveau programme pour les adolescents. Nous sommes à ce moment-là une petite trentaine, entre 20 et 30 jeunes adolescents. On part là à la mi-novembre 93, dans des camionnettes, et on arrive à un monastère... de la communauté, donc assez.
Au début des années 90, il va bouger ses 23 enfants, jeunes adolescents, dans le sud du Portugal, dans une propriété qui s'appelle le monastère de Mu. C'est une colline aride sur laquelle il y a un vieux moulin, enfin les ruines d'un vieux moulin, un temple, une cuisine, un réfectoire. On cultive nos légumes, on fait notre pain. Tout ce qu'on nous demande, c'est suivez l'horaire, faites ce qu'on vous demande, posez pas de questions.
On doit apprendre à se battre et à se défendre. Donc, Spatz nous dit qu'on ne peut pas manquer les arts martiaux, sans aucun prétexte, seulement si on dépasse les 42 de fièvre ou qu'on tombe dans les pommes. À ce moment-là, en fait, on travaille les arts martiaux dehors, sur une dalle en béton, jour pour jour. Moi, je le pratique pendant 4 ans et demi, jour pour jour, sans exception. Je me rappelle d'un coup de pied où je tombe par terre. Puis je me relève, puis je m'écroule par terre, quoi. De nouveau, j'ai mal à l'estomac pendant 2 mois. Mais on doit se mettre au service de cette cause, parce que le temps presse, l'apocalypse arrive, il faut massacrer l'ego pour être des sauveurs.
Quand Robert Spatz nous dit qu'on va se faire attaquer et qu'il va falloir que du sang va couler, ça, je le cite, nous on a peur, quoi. On a peur. Et donc le karaté, on le fait parce qu'on se dit, il va falloir se défendre. Il y a toute une période, en fait, où moi et mes potes, on va se constituer un atelier. Dans cet atelier, on est à même de couper du fer, de tordre des pièces, de travailler du cuir. Donc on va se faire des brassards en cuir recouverts de verre, de clous. On va rentrer dans cette espèce d'optique de plus en plus martiale, où la fin du monde est proche, où ça sert à rien de faire des études, ça sert à rien de faire tel ou tel ou tel choix, parce que de toute façon, la fin du monde arrive.
Moi, vraiment, ma crainte, c'est d'être jetée dehors de ce programme. Je veux certainement pas être... je veux vraiment faire partie de là, et avec mes amis, et ce qui est ma famille, en fait, qui est devenue ma vie. Alors, une des choses du programme de SPATS, SPATS nous demande de rester vierge, c'est une des conditions. Donc, j'ai 17 ans, et je suis au Portugal, au monastère. Et alors, il y a un garçon qui vient, et qui est le frère d'un des 26 jeunes qui est au Portugal à ce moment-là avec nous. C'est un garçon, il est beau, il a des cheveux blonds, à ce moment-là, il avait des yeux bleus, violets. Et ce jeune garçon, il passe quelques semaines, et puis il semble qu'il est amoureux de moi. Donc on sort ensemble, premiers échanges, etc. Mais je ne veux pas faire tout ce que Spatz a demandé de ne pas faire. Et donc je reste très très droite. Ce garçon repart, ses vacances sont terminées, et puis... Ce garçon est amoureux et il revient pour vivre avec moi. Seulement, il est confronté à la hiérarchie d'OKC qui tout de suite lui met les barrières. Et il reste là pendant 2 mois et demi à attendre pour rencontrer Spatz, pour demander l'autorisation. Je sens que je suis amoureuse, mais je refoule ce sentiment. Parce que je me dis qu'être amoureux, en fait, c'est nul. Et en fait, lui, il ne comprend pas pourquoi toutes ces barrières. Donc, il s'installe avec sa tante et il se dit... Je vais attendre cette fille, moi je vais la voir et on va pas mettre des barrières comme ça. Donc il attend pendant 2 mois et demi. Là. Spatz arrive quelques mois plus tard, il a un entretien avec ce garçon et il lui dit « ce n'est pas possible de vivre avec Sophie ». Donc moi en fait je suis très bouleversée par cette histoire parce qu'en fait je voudrais bien pouvoir vivre mon histoire d'amour avec ce garçon. C'est aussi quelque chose qui pour une fois m'appartient. Donc je pleure, etc. Il y a une fête... plein d'alcool, et alors Spatz préside cette fête, il me prend vraiment très serré contre lui, il fait chaud, etc., et il me chuchote, je sens encore sa moustache dans mon oreille, et qui me demande s'il m'a fait du mal dans mon centre secret. Et à ce moment-là, je suis perturbée, parce que j'ai le sentiment que c'est bien quelque chose que je devrais savoir, et donc je pense que c'est la sexualité, mais j'en suis pas sûre, parce que j'ai jamais été, on m'a jamais parlé de la sexualité non plus. Je suis très très gênée en fait, j'ai un sentiment de dégoût.
Je pars du monastère de Mu le 14 décembre 1996. J'ai 16 ans et j'ai une heure ou deux, même pas, pour me préparer, quoi. Et donc, je prends mes affaires, j'ai un sac avec des habits. Et sur le moment, je suis très triste, je sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, je me retrouve dans une ville pour la première fois de ma vie. Bon, c'est une toute petite ville, hein, mais je me retrouve dans une petite ville et je suis complètement paumé. J'ai aucun repère, je connais personne. Et donc, moi, je vais atterrir là, dans un monde peuplé d'adultes qui font partie... de la OKC, certains évidemment que je connais pour les avoir vus année après année lors des séminaires d'été, certains qui connaissent mes parents. Je vais essayer de m'inscrire à l'école publique dans ces années-là, et c'est quand je suis occupé avec tout ça que les perquisitions vont arriver en fait. On est en mai 1997, les perquisitions se passent en simultané en France, en Espagne, au Portugal et en Belgique.
Moi, je suis justement en train de faire des courses en dehors, et donc j'arrive sur la route et on voit le monastère de loin déjà, et on voit des voitures, des policiers, etc. qui montent. On ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Et alors, à un moment donné, on entend que Spatz a été attrapé, mais comme on devait s'attendre depuis toujours à une attaque, à une apocalypse, etc. Ben, chez nous, les jeunes, ça ne fait pas beaucoup plus de remous. On est de toute façon dans un monde tellement à l'écart qu'on vit, on ne comprend pas trop ce qui se passe en fait.
Moi, j'ai l'impression que... Moi, ça me va quoi. Enfin, je ne me vois pas révolté parce que Robert Spatz est en prison. Je n'ai pas l'impression que c'est une injustice. Pour moi, c'est là que je commence à sortir, dans le sens où je vais travailler dans un restaurant végétarien qui, oui, appartient à nouveau à la OKC, mais je connais des gens de l'extérieur, tous mes amis font partie, ont vécu leur vie à Corteira, à Loulé, à Faro, dans différentes villes du Sud. Et donc, voilà, on est entre potes. Parfois, il y a des sœurs de certains de ses potes, mais c'est surtout un groupe de mecs. De leur point de vue, moi, j'ai mon appartement, mon boulot, et en plus de ça, j'ai vécu dans une communauté bouddhiste qui a l'air super intéressante. Un de mes premiers souvenirs de « je fais ce que je veux », c'est même pas par exprès, je ne me suis juste pas réveillé pour aller au temple. J'ai 17 ans et je vais pas au temple et le ciel ne s'écroule pas et personne me prive de nourriture ou me bat ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est une nouveauté, quoi. Et donc je répète l'expérience pour confirmer que rien ne va m'arriver. Et donc en fait, moi, j'aime bien cette liberté.
Moi, j'ai un peu le statut d'artiste peintre dans la OKC. Et donc, on me demande de venir peindre un temple de la OKC. Au début, je ne veux pas quitter le monastère du Portugal, etc. Mais on me dit, mais ce n'est que 6 mois, après, tu peux retourner là-bas. Et donc, j'arrive à Bruxelles. J'ai 21 ans, je suis là que pour quelques mois. Je n'ai pas l'habitude de me débrouiller toute seule. C'est la ville. Je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas de carte bancaire, je n'ai pas d'argent, je n'ai presque pas de vêtements, je n'ai vraiment aucune affaire personnelle. Et puis, je n'ai vraiment rien. Je ne sais pas prendre le tram, je ne sais pas comment on fait. Et donc, je me retrouve là, en ville, avec rien, en ne sachant pas grand-chose. À un moment donné, il y a une fille aussi de la OKC qui, elle, est là depuis déjà quelques années. Et elle s'était déjà habituée, elle avait un amoureux de l'extérieur, entre guillemets. Elle sortait dans les boîtes et les bars brésiliens et tout. Elle m'emmène un soir, on doit sortir, et je sors avec un pantalon que j'ai piqué je ne sais pas où. Je suis habillée vraiment abominablement. Et j'arrive dans ce bar, et c'est très très nouveau. Et en même temps, c'est génial. Donc j'ai 21 ans. Et alors oui, en ville, il y a des boutiques tout le long de la rue. J'ai trop envie d'être bien habillée, d'avoir moi aussi, d'être quelqu'un. Et ce que je fais, c'est de m'obliger à ne pas regarder, à ne marcher dans la rue et de ne pas regarder les vitrines et donc juste de passer en disant « ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Je suis à Bruxelles jusqu'à 2006. Je travaille dans la OKC, pour la OKC. Je travaille entre 12 et 16 heures par jour, parfois. Un des responsables vient pour nous dire qu'on peut percevoir un peu d'argent, donc 125 euros par mois. Et on dit, waouh, mes premiers 125 euros de ma vie. Et donc, je reçois mon enveloppe, la première chose que je fais. Donc, je file dans une boutique, je m'achète un super beau pantalon blanc, taille haute, avec un petit top pour sortir, parce que c'était le monde de la nuit. Le monde de la nuit me fait faire mes premiers pas dehors, et donc c'était le monde dans lequel je voulais être bien sapée et tout.
Du jour au lendemain, il y a cette proposition qui débarque, comme quoi ils ont besoin d'un cuisinier dans le restaurant de Bruxelles. Et donc c'est comme ça que je pars du Portugal et je débarque le 23 février 2003 dans la communauté à Bruxelles.
C'est très dangereux pour moi ce monde parce que j'ai pas de personnalité propre. Je ne sais pas vraiment qui je suis, j'ai pas de limite définie. Quand je marche dans la rue, je regarde droit devant moi et je regarde les gens comme si ce sont tous mes amis. Je n'ai pas de... On m'a pas appris, en fait. J'ai pas les codes. J'ai pas les codes humains, mais j'ai pas les codes sociaux sur lesquels il faut faire attention, le genre de gens auxquels il faut faire attention, ce qu'on fait pas, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Moi, je suis juste ouverte comme ça. Je sors, j'ai pas de barrières. Alors, il y a des gens qui me trouvent super sympathique, parce que oui, justement, j'ai pas les mêmes barrières que les autres, mais en même temps, je m'en suis pris plein la gueule, vraiment.
Quand j'arrive à Bruxelles, Sophie est déjà là. Il y a des potes vraiment de ma génération qui sont là. On est là, rue de Livourne, où tout est interdit. Au partir du moment où on voit qu'en fait, on peut rien changer, et que tout ce qu'on nous demande, c'est de travailler et de se la fermer, tu te sens tellement contrôlé, tellement sans issue, en fait, qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, en fait, on peut pas rester ici, mais comment on va faire, puisque on a aucun moyen pour sortir d'ici, donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça traîne, puisqu'on se dit, bah, on s'en fout, on ne sait pas sortir d'ici, bah, tant pis, on a 100 euros par mois comme argent de poche, bah, on, va, On va au restaurant, on va boire, on va acheter des joints.
Moi, je suis en crise tout le temps. Je me sens hyper mal. Et je me rends compte que malgré tout le travail que je fais, tout ce que j'essaye de bien faire, c'est, ça ne va toujours pas. C'est jamais assez. Je suis toujours critiquée. On est constamment observée, manipulée. Mais en même temps, il y a toujours plus de travail, etc. J'ai 29 ans. J'ai l'occasion de partir 3 semaines en Turquie, toute seule, avec un sac à dos, ce que je n'ai jamais fait. Et j'ai la peur au ventre. Mais en même temps, il y a une intuition en moi. C'est comme si je touchais à quelque chose de génial. Mais je ne sais pas encore. C'est vraiment, en moi, c'est un sentiment. Et je me retrouve en Turquie. Je me rappelle encore à Antalya, il y avait de l'orage, une pluie diluvienne. Je suis là toute seule avec mon sac à dos. Il n'y a personne autour de moi, il n'y a personne pour m'observer, il n'y a personne pour me juger, me culpabiliser. Je ne dois rien à personne. J'avais la trouille, mais c'était formidable. Je rencontre un garçon, un Belge. Ça devient un copain, etc. Et puis ça devient un petit flirt, etc. Et donc c'est lui qui m'aide un peu à me débrouiller. Et puis au final, je passe 3 semaines avec lui en Turquie. C'est quelqu'un qui est quand même très large d'esprit. À ce moment-là, et moi, je présente ça comme quelque chose de, donc je vis en communauté, que c'est exceptionnel, que Spatz a un charisme incroyable. J'en parle, il trouve quand même un peu bizarre, mais il ne critique pas.
Après l'été 2005, je me retrouve à Vajra, qui est une société grossiste, alimentation, biologique, qui fournit en fait les autres secteurs de la OKC, le Dolma et la Tsampa, qui sont des restaurants et magasins biologiques. Je suis en partie chargé de la réception des marchandises et de travailler dans l'entrepôt, et petit à petit, je me retrouve derrière les ordinateurs et la conception du site web, etc. Et donc moi, c'est ça qui me branche. Et c'est dans cette situation-là, en fait, que la mère de ma fille va débarquer à Vajra comme candidate à un emploi. Elle ne fait pas partie de la OKC, elle sait absolument pas où elle pose les pieds, en fait. Et au bout de quelques semaines, on va commencer à se rapprocher, à parler énormément. Elle va me parler de sa relation à ce moment-là, avec un monsieur. Puis il y a eu un jour, elle va venir rue de Livourne chez moi, donc elle va voir l'endroit où j'habite, elle va connaître mes amis. Elle me pose des questions, mais moi, j'arrive pas encore à parler de tout ça. Je suis bien emballé, je suis amoureux d'elle, je suis tout content d'avoir une relation. C'est ma première relation que j'ai sans même chercher, en fait, depuis que je suis à Bruxelles. Donc je suis tout content, je suis tout emballé par tout ça. Et en fait, quelques 6 mois après, en fait, j'apprends que je vais être papa.
Après ces 3 semaines, je dois rentrer. Et là, je dis à tout le monde, à ceux qui m'entourent et ceux qui travaillent avec moi, que j'ai vécu 3 semaines extraordinaires, que la liberté existe et qu'en fait, voyager, c'est juste fantastique. Et je décide de quitter la OKC. Je veux partir, en fait. Et donc, j'arrive à combiner encore un autre job en plus de celui-là. Et finalement, j'amasse un peu d'argent pour quitter. J'ai 29 ans et je suis partie. Et au final, ça a duré 13 mois. Je suis partie dans différents pays, jusqu'au Moyen-Orient. J'ai très, très, très peur. J'ai vraiment... Et je souffre aussi de ce que je suis à ce moment-là. Et je souffre aussi de fait de me séparer de tout ça. La communauté, c'est ma famille. J'ai plus de repères.
La naissance de ma fille, c'est un déclic, parce que je me dis il n'est pas question qu'elle soit éduquée entre les murs de la OKC. Ça, c'est la première certitude que j'ai, et j'ai même pas un instant d'hésitation sur ça. Je suis même pas en train de me demander « Ah, mais comment on va faire ?» Non, non, non. C'est « On fait les affaires. » En gros, ça voulait dire un sac d'habits pour moi. Et on se casse. Et donc, du jour au lendemain, littéralement, j'ai appris cette nouvelle. Je crois qu'il y a 2-3 jours qui sont passés. Ça m'a donné le temps de m'organiser un petit peu. Elle a son appartement à Chaussée-d'Oivre, et donc moi, je vais vivre avec elle. Et donc, je quitte tous mes potes d'enfance qui habitent au 109 rue de Livourne. Et je me quitte. Enfin, je quitte tout ça du jour au... Vraiment, comme ça, quoi. Boum.
Dans ce voyage, j'ai eu l'occasion de re-rencontrer la même personne qu'au voyage précédent. Et c'est cette personne plus tard que je retrouve lorsque je reviens en Belgique un an plus tard. N'ayant plus de repères, cette personne que j'avais rencontrée en voyage, ce garçon, m'aide aussi à me redonner un peu de stabilité. J'aurais jamais pensé que voilà, ce serait mon mari actuel. Je garde beaucoup de contacts encore, évidemment, avec tous les jeunes de la OKC, même encore avec les personnes qui sont dedans.
La mère de ma fille et moi, on arrive un peu au bout du rouleau de notre histoire, en quelque sorte. Donc on se sépare au bout de 2 ans, et quand je vais quitter la mère de ma fille, bah, à nouveau, où est-ce que je peux aller ? La seule personne, le seul propriétaire que je connais qui va me louer une chambre, eh ben, c'est la OKC.
Un jour, près de chez moi, je rencontre une fille, une jeune fille, qui, elle, avait porté plainte à l'époque pour abus sexuels de la part de M. Spatt. Donc, je la rencontre dans la rue et cette jeune fille semble aller mal. Et donc, je lui demande des nouvelles et puis elle me dit « Je viens de perdre mon bébé, on me l'a enlevé, etc. de l'hôpital à la naissance. » Et elle est tombée dans mes bras en pleurant et en fait, elle était vraiment mal. Pourquoi alors j'ai vécu tellement de choses dans OKC, tous ces préceptes, ces milliers de méditations, ces millions d'heures passées au temple, à apprendre des textes par cœur sur la compassion, sur le bonheur de tous les êtres, se sacrifier. Pourquoi j'ai dû faire tellement de choses, sacrifier toute ma vie comme un moine, comme un je ne sais quoi, pour me retrouver avec cette fille qui souffre terriblement, qui a dû vivre la même chose que moi, elle a tout sacrifié. Elle est dévastée, elle va très mal, elle est en psychiatrie la plupart du temps. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a étouffée lorsqu'elle a porté plainte? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de l'aider vraiment? Pourquoi est-ce que tout ça, toute sa plainte, les difficultés que ses parents ont eues pour s'en sortir ont été étouffées, ils ont été lynchés, ils ont été jetés dehors?
2008 arrive, et un été, il y a des filles qui sont rassemblées, et elles parlent de l'affaire. Et en fait, elles disent, mais vous savez, en fait, elle n'est pas folle, cette fille n'est pas folle. Moi, en fait, ça m'est arrivé la même chose. Ça fait une chape de plomb, quoi. Ça fait, oh, putain, quoi. Moi, ce qui va me titiller, toujours, ça va être, bon, les abus physiques, les privations de nourriture, la séparation des parents et des enfants, voilà, tout ça, c'était quelque chose, c'était pas bien, c'était horrible, c'était moche. Mais on a survécu. Alors quand les abus sexuels viennent ramasser une couche par-dessus, là, moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Là, j'ai conscience qu'il va falloir faire quelque chose contre, en tout cas. Et même si je dis pas encore le mot secte comme ça couramment, je sais que je vais devoir me jeter dans une bataille, quoi.
Vers 2013 ou 2014, j'ouvre les yeux à ce moment-là et je commence à avoir une vue différente sur les choses. Disons que les choses émergent en moi comme « Ok, mais pourquoi ? Et comment ? Mais ça colle pas, etc. » Plus tard, je tombe enceinte, j'ai mes propres enfants, et là, je comprends pas. Là, ça a vraiment été le déclic total. C'est vraiment, à ce moment-là, en ayant des enfants, je me vois moi, je me vois mon frère à travers mes enfants. Je nous vois, nous, Ricardo et tout ça, et à ce moment-là, c'était plus supportable, en fait. Moi, je suis sur le cas de cette fille, j'ai envie de faire quelque chose.
Et donc, je vais contacter l'avocat, je crois que c'est septembre 2015, je vais lui faire une page A4, je lui explique un petit peu cette situation, et le fait qu'on n'a pas d'avocat, qu'on arrive avec presque 20 ans de retard dans une affaire judiciaire. Et donc, je lui explique tout ça, et il me répond dans l'heure en me disant « Monsieur, je me saisis de votre affaire, rendez-vous à mon bureau tel jour, quoi. » Alors, je contacte Sophie, parce que je me dis qu'elle a vécu des choses qui sont inacceptables, en fait. Et je me dis, elle est suffisamment libérée du carcan de la OKC pour que je lui parle de tout ça. Et donc, en fait, le procès va s'ouvrir 2016 avec nos déclarations face à la cour, avec on va déballer en fait, tout ce qu'on n'a jamais pu raconter devant qui que ce soit.
Cette première audience, en fait, c'est extrêmement difficile de s'entendre et en fait, de le dire à voix haute. C'est la première fois qu'on parle de choses comme ça, qu'on raconte notre vie à la justice, au monde extérieur et aussi envers et contre nos parents. Voilà, on a subi ça, on a vécu ça. Vous nous croyez ou pas ? Certains, c'était, oui, et alors ? Nous aussi, on a eu des coups de ceinture. Ou alors, oui, mais vous allez détruire notre monde, notre communauté au cassé. Entendre ça, c'est encore plus déterminant pour nous, aller jusqu'au bout.
Robert Spatz est en Espagne, il est absent à son propre procès. D'ailleurs, tout comme la majorité des parents, la majorité des adultes, même de la OKC, sont tous absents du procès de leur propre communauté.
Alors les parents, oui, ils ont une part de responsabilité. Maintenant, jusque où ? Consciemment, inconsciemment. C'est quand même une secte, il y a de l'endoctrinement, ça c'est évident. Mais il faut assumer ses responsabilités. Ma mère, elle est, j'arrive pas à avoir vraiment un dialogue. Et c'est vrai que quelque part, c'est gagné, cette distance d'être contre les parents, que les parents sont pathogènes et que c'est quelque chose de nocif pour nous. Moi, ça a gagné sur moi, oui. J'arrive plus vraiment à avoir une relation. Je vais pas chez eux, je n'ouvre pas le frigo comme un enfant, il va chez ses parents, il se prend un coca. Je veux détruire, je le dis bien, sans frémir, toute la communauté aussi, tout ce faux bouddhisme. Parce que pour protéger leur monde idéal, ils ont sacrifié une centaine d'enfants. Et j'ai besoin de passer par là pour sortir mon côté de victime, en fait. Je vais pas lâcher prise tant que l'édifice n'est pas tombé à terre. Voilà.
Le 2 décembre 2020, Robert Spatz a été condamné à 5 ans avec sursis et à plus ou moins 1 million d'euros de compensation financière pour les différentes victimes d'abus physiques, abus sexuels, etc. Sauf que, évidemment, il fait appel. Le fait de remporter une victoire contre quelque chose qui paraissait insurmontable, je pense que c'est vraiment important. Pas que pour moi, mais pour nous tous, en fait. Même pour les parents qui, aujourd'hui, sont même pas encore conscients de l'ensemble de tout ça. Je pense que le fait que Robert Spatz soit terrassé, ça va faire un bien fou, mais à des centaines de personnes.
Moi, je vois Ricardo et les autres. Je les vois enfants, je les vois adolescents, et je me vois moi dedans. On est liés pour tout, je veux dire, quoi qu'on fasse. En fait, Ricardo, comme les 26 autres, et puis la génération qui suit aussi, ce sont mes frères d'armes, ce sont mes frères pour la vie.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Constance Villanova. La musique et la réalisation sont de Charles de Cilia. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Gérard, responsable de production. Mélissa Bounois est à la direction des productions et le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski. Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous, à vos amis, à vos abonnés sur les réseaux sociaux ou à vos grands-parents. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et plein d'autres choses. C'est sur louismedia.com/club. À très vite.